Je vais dire ce soir un certain nombre de choses qui seront peut-être nouvelles pour certains, mais pas pour d'autres. Ce sera une réunion au cours de laquelle nous examinerons l'évolution des événements à la lumière de la parole prophétique. Nous avons déjà tenu plusieurs réunions au cours desquelles nous avons prêché le plein évangile et avons certainement présenté ce qui s'est passé à Golgotha de la manière la plus accessible possible. Je ne pense pas qu'on puisse le dire ou le présenter plus clairement. Celui qui ne croit pas à une telle proclamation de la parole ne croirait pas non plus si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts ou si un ange descendait du ciel. Car la parole de Dieu est au-dessus de tout ce qui pourrait exister d'autre. Et si nous laissons la parole de Dieu nous parler en tant que parole de Dieu, cela suffit. Quelle parole peut être plus puissante que la parole de notre Dieu? Sa parole est une parole toute puissante, ainsi est-il écrit. Il soutient l'univers par sa parole toute puissante. Et dans cette parole se trouve en effet le calendrier de Dieu, les différentes époques, en particulier la fin des temps, ont été consignés dans la parole de Dieu dans de nombreux passages bibliques. Nous les connaissons pour la plupart lorsqu'il s'agit de décrire la situation générale ou l'état de la fin des temps. Paul l'a fait amplement dans ses épîtres. Et j'aimerais maintenant en lire deux passages. Le premier est tiré de 1 Timothée, chapitre 4, et le second de 2 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit déclare expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines qui viennent de démons. Verset 2, séduits par l'hypocrisie de menteurs qui portent le sceau de la culpabilité sur leur propre conscience. Verset 3, ce sont des gens qui interdisent le mariage et impose l'abstinence de certains aliments, alors que Dieu les a créés pour que les croyants et tous ceux qui ont reconnu la vérité en jouissent avec reconnaissance. Deuxième passage, tiré de 2 Timothée, chapitre 3, je ne lirai probablement pas tout le texte, seulement le début et peut-être le verset 8. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Sache cependant ceci, dans les derniers jours des temps difficiles surviendront, verset 2, car les hommes seront égoïstes et avides d'argent, vantards et orgueilleux, calomniateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, verset 3, sans amour ni loyauté, calomniateur, intempérant, débauché, ennemi de tout ce qui est bon. Et cela continue encore et encore jusqu'à frivole et prétentieux, etc. Puis vient le verset 8. Tout comme Jannès et Jambres s'opposèrent autrefois à Moïse, de même ceux-ci s'opposent à la vérité. Des hommes à l'esprit perverti et dont la foi est défaillante. Nous vivons à cette époque, ou plutôt à l'époque où ces choses se produisent. Juste dans le chapitre suivant, dans 2 Timothée, chapitre 4, nous trouvons l'exhortation qui, pour moi personnellement, a le plus de sens parmi toutes celles qui aient jamais été données et qui figurent dans les Saintes Écritures, car c'est à Marseille qu'il m'a été demandé, qu'il m'a été ordonné de la lire. Je n'oublierai jamais ce jour-là. J'étais à Marseille avec Frère Barillier et nous tenions des réunions il y a quelques années. Et c'est là que, pour la première fois, des frères m'ont interrogé sur les sept tonnerres. Et je n'en savais rien à ce moment-là. Et je n'en sais toujours rien aujourd'hui. Mais je suis au courant. Quoi qu'il en soit, j'étais très attristé car c'était la première fois que je ne pouvais pas répondre à une question et je me suis retiré dans ma toute petite chambre. C'était une belle chambre, mais peut-être seulement 9 mètres carrés, très petite et froide de surcroît. Mais le lendemain matin, je me suis réveillé au son d'une voix forte, audible. Et la voix du Seigneur vient toujours d'en haut à droite, jamais directement devant, jamais à gauche, toujours d'en haut à droite. Et la voix du Seigneur a dit avec toute sa puissance, « Lève-toi et lis 2 Timothée chapitre 4. » Je n'insiste pas aussi clairement que le Seigneur le fait quand il parle. Chaque mot est prononcé clairement, on ne peut mieux. J'ai attendu un instant, j'ai hésité, je ne savais pas exactement si je devais m'habiller ou non, et ainsi de suite, comme c'est toujours le cas. Et la voix s'est fait entendre une deuxième fois, mais elle était plus puissante, un ordre. Lève-toi et lis 2 Timothée 4. Je l'ai fait. J'ai lu de 1 à 5. Puis j'ai commencé à lire à partir du verset 1 et je suis arrivé au verset 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts, et par son avènement et par son règne. Verset 2, prêche la parole, insiste sur elle, que ce soit opportun ou non. Reprends, réprimande, exhorte avec toute la patience et l'enseignement. Auparavant, j'avais déjà lu cette partie. Il viendra un temps où l'on se détournera de la saine doctrine, etc., etc. Et ainsi de suite. En lisant cela, je savais qu'on ne peut jamais prêcher sur les sept tonnerres, car ils n'ont pas été consignés comme parole de Dieu dans les Écritures, dans les Saintes Écritures. Il est clairement dit, n'écris pas, mais scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres. Apocalypse 10, verset 4. Un ange pourrait descendre du ciel et me dire, j'ai le mystère des sept tonnerres. Je lui dirais, sans présomption, retourne d'où tu es venu. Personne ne peut imaginer quelle certitude de Dieu pénètre dans le cœur d'un homme dans de tels moments. Cela ne relève plus de la réflexion, mais véritablement de l'action de Dieu, et c'est précisément ce qui s'est produit là-bas. C'est pour cette raison que mon engagement a toujours été et restera jusqu'à la fin de proclamer la parole. Et les choses qui sont dites doivent trouver leur confirmation dans la parole. Cependant, comme nous le verrons ce soir, il y a des descriptions dans les Saintes Écritures, il y a des symboles, il y a des images. Et il faut alors en connaître la signification spirituelle pour comprendre de quoi il s'agit réellement. Je voudrais commencer avec Luc chapitre 21, verset 24. Notre frère l'a déjà dit ici tout à l'heure, ici devant, quand il a vu les Juifs monter dans l'avion, et lui est venu à l'esprit qu'ils allaient être rassemblés et rentrer chez eux. Dans Luc 21, verset 24, il est écrit, Luc 21, verset 24, « Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront amenés en captivité parmi toutes les nations. » Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. C'est ce que notre Seigneur lui-même a dit. En ce qui concerne les choses terrestres, il peut faire allusion à certaines choses, par exemple dans Luc 21. Verset 20, il est écrit, « Mais quand vous verrez Jérusalem assiégée par des armées, sachez alors que sa destruction est proche. » Verset 21, « Alors que les croyants de Judée fuient vers les montagnes, que les habitants de la ville s'enfuient, et que ceux qui vivent à la campagne n'entrent pas dans la ville. » Je ne vais pas lire plus loin. Je veux juste seulement souligner un point. Le Seigneur a prédit certains événements. Quand ils se produiront, quand cela arrivera, les croyants de Judée devront fuir dans les montagnes. Et ceux qui connaissent l'histoire savent, Joseph le décrit, que lorsque les Romains, sous le commandement de Titus, assiégèrent Jérusalem en l'an 68, tous les croyants avaient fui. Et pas un seul croyant n'a péri. Seuls les incroyants ont été victimes du jugement. Les croyants savaient, dès l'instant où Jérusalem serait assiégée, la destruction de la ville serait proche. Et ils ont cru au Seigneur et ont pris cela comme un signe. Et voilà, ils ont été secourus. Nous avons en effet de nombreuses descriptions de la fin des temps, de Matthieu chapitre 24 jusqu'à l'Apocalypse. On nous parle de guerre, de cris de guerre, de famine, de catastrophes de toutes sortes. Il y aura des miracles et des signes au ciel, à la lune et aux étoiles. Beaucoup de choses se produiront. Et puis Paul écrit, très clairement dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, où il dit ceci, 1 Thessaloniciens 5, verset 1, « Quant au temps et à l'heure, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1, « Quant au temps et à l'heure, vous n'avez pas besoin, frères bien-aimés, qu'on vous en fasse la leçon par écrit. » Verset 2, vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et voici maintenant le signe. Verset 3. Quand ils diront, c'est la paix et la sécurité, alors la ruine les surprendra soudainement, comme les douleurs de l'enfantement se prennent une femme enceinte, et ils n'échapperont certainement pas. Non pas quand les guerres et les cris de guerre auront lieu, mais quand la phase de paix sera amorcée. Lorsque les blocs de pouvoir commenceront à se désagréger et que la dernière formation se produira telle qu'elle nous est présentée à nouveau sous les yeux dans la parole de Dieu, à savoir comme un tout. Si nous vivons déjà ici sur ce continent qui revêt la plus grande importance dans la prophétie, quelle importance a donc la Chine? Quelle importance ont les autres continents ou pays. Nous avons tout simplement la malchance ou le privilège de vivre ici, là où se déroule une grande partie de l'histoire liée à l'histoire du salut. Et nous allons voir tout à l'heure que nous sommes au cœur de cette évolution qui a été prédite dans les Saintes Écritures. Je voudrais lire encore un passage d'Ésaïe 21 pour nous montrer que Dieu a toujours informé son peuple et cela ne changera pas jusqu'à la fin. Ésaïe 21, versets 11 et 12. Ésaïe 21, versets 11 et 12. Oracle sur Douma, de Zéhir, on m'appelle sentinelle, quelle heure est-il dans la nuit? Sentinelle, quelle heure est-il dans la nuit? Le verset 12, la sentinelle répond, le matin vient, mais c'est encore la nuit. Si vous voulez en savoir plus, revenez une autre fois et demandez. Nous voulons en savoir plus, nous aimerions en savoir plus, et nous venons maintenant interroger le Seigneur et nous laisser donner la réponse par les Saintes Écritures. Dans Romains chapitre 9, je voudrais lire le verset 28. Romains, chapitre 9, verset 28. Afin que nos frères puissent traduire sans peine, je ne vais pas me presser. Romains 9, verset 28. Car le Seigneur mettra sa parole à exécution sur la terre en faisant en sorte que les choses se déroulent avec certitude et coup sur coup. Sentinelle, quelle heure est-il dans la nuit? Sentinelle, jusqu'où tout cela a-t-il progressé? Dans quelle mesure le déroulement des événements est-il déjà conforme à la parole prophétique? Où en sommes-nous maintenant? Et que va-t-il se passer dans un avenir très proche? Peut-être quelqu'un dira-t-il, il nous suffit d'être sauvés par la grâce. Pourquoi alors Dieu s'est-il donné cette peine et a-t-il montré à Jean sur l'île de Patmos les choses à venir par révélation? Pourquoi ces 22 chapitres ont-ils été écrits? Parce qu'ils étaient nécessaires. Nous avions besoin d'informations. Pourquoi le prophète Daniel a-t-il été écrit avec ces 12 chapitres? Nous avions besoin d'informations divine. Et lorsque le moment viendrait où nous réaliserions à quel point nous en sommes. Je voudrais continuer la lecture dans Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, certainement concernant le peuple d'Israël. J'ai entendu Frère Branham dire à plusieurs reprises, si vous voulez savoir quelle heure il est, regardez votre montre. Si vous voulez savoir quel jour de la semaine nous sommes, regardez le calendrier. Mais si vous voulez savoir où en est le temps, regardez le peuple d'Israël. Et je crois que nous faisons bien de prendre à cœur les signes que le Seigneur nous a indiqués, de les voir et de nous y orienter. Ésaïe chapitre 14, versets 1 et 2. Ésaïe chapitre 14, versets 1 et 2. Car le Seigneur aura pitié de Jacob, et il choisira encore une fois Israël, et le fera reposer sur sa terre natale. Les étrangers se joindront à eux, et s'associeront à la maison de Jacob. Verset 2, et les nations les prendront et les ramèneront chez elles. Et la maison d'Israël possédera parmi elles des serviteurs et des servantes dans le pays du Seigneur, de sorte qu'ils tiendront eux-mêmes en captivité ceux qui les avaient autrefois tenus captifs et exerceront leur domination sur leurs anciens oppresseurs. Ce qui importe dans ce contexte, c'est que Dieu choisirait à nouveau son peuple d'Israël et le ramènerait. Et nous l'avons clairement vu lors de notre dernier voyage, c'était probablement ma 9e fois en Israël, et Dieu a béni le pays et le peuple au-delà de toute mesure, de manière visible, et nous nous en réjouissons. Nous avons déjà lu Luc 21, mais j'aimerais ajouter quelques versets à ce sujet. Luc 21, versets 29 et 30. Il leur dit alors une autre parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Verset 30. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez en les voyant que l'été est proche. Verset 31. De même, quand vous verrez tout cela arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Verset 32. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Aujourd'hui, concentrons-nous sur cette pensée dans ce texte, le figuier et tous les autres arbres. Donc, pas seulement le figuier, mais aussi tous les autres arbres. Non seulement le peuple d'Israël, mais aussi tous les autres peuples deviendront indépendants, bourgeonneront, se débarrasseront du joug et obtiendront leur autonomie. J'ai un très bon ami en Angleterre, il en veut aux Allemands parce que l'Empire britannique s'est effondré à cause de la Seconde Guerre mondiale. Je n'y suis pour rien si les choses se sont passées ainsi, mais il s'est passé des choses dans leur évolution depuis la Seconde Guerre mondiale que nous devons tout simplement observer. Car la fin des temps suit son cours, et ce, à une grande vitesse, ces derniers mois. Après la Seconde Guerre mondiale, non seulement Israël a pris son indépendance, mais aussi toute l'Asie et toute l'Afrique. Qu'ils aient été sous domination française ou anglaise, tous les peuples ont accédé à l'indépendance. Nous avons eu la chance de rendre nos colonies dès la Première Guerre mondiale. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui mieux lotis que les autres. Mais il ne faut pas mélanger cela avec la politique. Que s'est-il passé? Dans les années 40, 50, je connais encore beaucoup de pays quand ils n'étaient pas encore indépendants, et je les connais depuis. Tout a basculé. Quand le figuier et tous les autres arbres, relisez Osée 9, verset 10, il y est écrit que Dieu a trouvé Israël comme le fruit du figuier dans le désert. un symbole d'Israël. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement du figuier, il s'agit de tous les autres arbres. Juste après la Seconde Guerre mondiale, une vague de libération de toute tutelle et domination. Et que constatons-nous ces derniers temps, ces derniers mois? Une nouvelle vague. On secoue le joug et on souhaite pouvoir décider en toute liberté, être libéré de l'oppression et de la tutelle. Ce qui a été préparé au cours des 5 dernières années, depuis que Gorbatchev a pris le pouvoir, s'est manifesté ces derniers mois comme un fruit. Toute l'Europe de l'Est s'est révoltée, a brisé le joug et a obtenu la liberté qui lui revient. Et nous y voyons également un accomplissement des Écritures. Et bien d'autres choses suivront encore, pour autant que le temps le permette. Nous sommes probablement plus proches de la fin que nous ne le pensons tous. Et aucun d'entre nous ne peut dire si cela prendra des années ou des mois. Mais une chose, nous pouvons l'affirmer avec certitude. Nous sommes entrés dans la dernière phase de la fin des temps. Et je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit de prêter attention aux signes des temps et à l'évolution qui se déroule, afin de reconnaître ensuite quelle heure il est sur l'horloge du monde. Vous ne m'en voudrez pas aujourd'hui si je lis deux passages tirés de deux différentes prédications de Frère Branham, qui a pourtant eu un grand nombre de visions en 1933, en particulier les 7 visions. Il a vu comment Mussolini allait arriver au pouvoir en Italie. Il a vu comment Hitler allait arriver au pouvoir en Allemagne. Il a vu la construction du Westwall appelé ligne Siegfried. Et pour lui, en tant qu'Américain, avec son faible niveau d'instruction, cela aurait été un exploit s'il avait eu une telle maîtrise de la géographie, car un Américain moyen ne connaît pratiquement pas l'Europe. L'Amérique est déjà assez grande en soi et chacun a fort à faire à la découvrir. Mais avec une grande précision, il a prédit les événements tels qu'ils allaient se produire. Il a également vu que l'Amérique serait entraînée dans la guerre et que finalement, la victoire ne serait pas la nôtre, mais celle de l'autre camp. Cela aussi, il l'a vu. Mais ce n'était pas tout. Il vit alors une femme, une belle femme, vêtue de manière royale, assise sur un trône, et une voix lui dit, elle est cruelle dans son cœur, belle en apparence, avec beaucoup de luxe, mais cruelle dans son cœur. Et je vous demande maintenant de bien comprendre cela. La remarque que je fais maintenant doit simplement être faite. Je vous en prie, vous tous qui écoutez ces enregistrements ou ces prédications, lorsque nous parlons de communisme ou de catholicisme, ce ne sont pas les gens, mais la cause, la chose, le système, pas les gens. Les gens en souffrent eux-mêmes. Comprenez-vous cela? Mais Frère Branham a dit ce qui suit le 6 août 1961. Je n'étais pas contre l'Allemagne, j'étais contre le nazisme. Je n'étais pas contre l'Italie, j'étais contre le fascisme. Et souvenez-vous, j'ai fait une autre prédiction à l'époque, et beaucoup d'entre vous, les anciens, s'en souviennent. J'ai dit que trois gisements allaient désormais se démarquer et s'imposer dans le monde. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Je lis en anglais. Et j'ai dit qu'ils aboutiraient tous au communisme. Puis, je vous ai tous fait répéter, tournez votre attention vers la Russie. Vous vous en souvenez? Tournez votre attention vers la Russie, car tout aboutira au communisme. Et puis, finalement, tout aboutira au catholicisme. Souvenez-vous, tout aboutira au catholicisme dans les temps de la fin. Nous avons vu ces choses, nous le savons tous. Et qui a vu ces jours? Qui a vu ces jours-ci les affiches électorales colorées sur nos colonnes publicitaires? Avez-vous lu le titre? Le socialisme s'en va, nous arrivons. Les affiches mesurent 2 mètres de haut et 1 mètre de large. Tout le monde peut bien les voir. Le socialisme s'en va, nous arrivons. Qui sont ces nous? De quoi s'agit-il? Et vous direz peut-être, frère Franck, vas-tu faire un discours politique aujourd'hui? Non, je ne le ferai pas. Sinon, je serais devenu politicien. Mais ce n'est pas mon rôle. Je vais lire encore un peu plus d'un sermon du frère Branham daté du 19 mars 1962. Citation. Une pluie d'enseignements s'abat. Qu'est-ce que c'est? C'est semer la graine dans la terre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Nous constatons qu'une pluie d'enseignements s'est abattue. Les baptistes, leur objectif était d'avoir 1 million de membres supplémentaires en 1944. Les grands réveils de Billy Graham, les grands évangélistes, regardez ce qu'il a fait. Regardez Oral Roberts et les pentecôtistes. C'était une pluie d'enseignements qui s'est abattue. C'était une pluie d'enseignements nationales. Le communisme a été semé parmi les gens dans chaque nation. C'était un réveil de Rome. Savez-vous ce qui se passe s'ils rendent la partie ouest ou la partie est de Berlin? Cela mettra fin au communisme. Cela ramènera l'Empire romain exactement dans la situation où il se trouvait au jour de Jésus. C'est certain. Parfaitement. L'avez-vous entendu? Mes frères et sœurs de la République démocratique allemande, si je me souviens bien, la construction du mur a eu lieu le 13 août 1961. Et ici, le 19 mars 1962, frère Branham dit, savez-vous ce qui se passera s'il restitue la partie ouest ou la partie est de Berlin? En quoi Berlin le concernait-il donc? Il habite pourtant loin de là. Il a fait cette déclaration et nous en sommes reconnaissants. Si la partie est de Berlin est restituée, cela mettra fin au communisme. Regardez donc l'Europe de l'Est aujourd'hui. C'est fini. Les gens changent le nom de leur pays. Ils ne veulent plus entendre parler du socialisme et de tout ce qui s'y rapporte. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Afin que s'accomplisse ce que la parole de Dieu prédit et ce que frère Branham a souligné, que tout aboutisse sous la domination de Rome. Je vais vous lire encore quelques passages bibliques ce soir, afin que vous sachiez ce qu'il en est. Et je crois en effet qu'il est nécessaire, précisément maintenant, de comprendre la situation. Écoutez, si quelqu'un vous dit que nous n'avons pas besoin de connaître ces choses prophétiques pour être sauvés, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Par exemple, Apocalypse 14, 9 à 11. Si quelqu'un reçoit la marque de la bête, il sera tourmenté devant la face de Dieu pour l'éternité. Mais si nous ne savons pas de quoi il s'agit, nous risquons de nous y fourvoyer et de nous livrer à des festivités avec de la musique et tout ce qui va avec, sans même nous rendre compte que nous sommes déjà tombés dans cette situation dans laquelle nous ne voulons absolument pas nous retrouver. Selon ce que le prophète Daniel a vu, l'Empire romain existe bel et bien jusqu'à la fin. Et je voudrais lire spécifiquement Daniel 7, afin de préparer un peu la lecture d'Apocalypse 13 et 17. Daniel 7. Vous savez, bien que le prophète Daniel a eu des visions, Daniel 7, verset 3. Oui, lisons peut-être déjà le verset 2, Daniel 7, verset 2. « Moi, Daniel, j'eus une vision pendant la nuit et je vis les quatre vents des cieux agiter la grande mer. » Verset 3. « Alors quatre bêtes puissantes sortirent de la mer, chacune différente des autres. » Verset 7. « Puis, dans mes visions nocturnes, un quatrième animal m'a paru soudain, terrible et effrayant, d'une force extraordinaire. Il avait de puissantes dents de fer, il dévorait, broyait et piétinait ce qui restait. Il était très différent de tous les animaux précédents et avait en outre 10 cornes. Veuillez noter ces 10 cornes. Et ensuite, vous pouvez bien sûr continuer à lire les paroles arrogantes qui ont été prononcées, etc. Je lis maintenant le verset 17. Verset 17, ces quatre bêtes redoutables représentent quatre rois qui s'élèveront sur la terre. Verset 18, mais les saints du Très-Haut recevront la domination et la posséderont pour l'éternité, oui, pour une éternité des éternités. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais il faudrait lire ici plutôt éon d'un néant à l'autre. L'éternité n'a jamais commencé et ne peut s'arrêter. Et ne peut s'arrêter jamais. Elle ne peut pas non plus être divisée. Continuons notre lecture. Daniel 7, probablement au verset 23. Daniel 7, verset 23. Il me donna donc l'explication suivante. La quatrième bête représente un quatrième royaume qui sera sur la terre. Auparavant, il y avait quatre rois avec les quatre bêtes. Maintenant, ce sont quatre royaumes. Écoutez bien. Il me donna donc l'explication suivante. La quatrième bête représente un quatrième royaume qui sera sur la terre différente de tous les autres royaumes. Il dévorera toute la terre, la foulera aux pieds et la broyera. Vous pouvez bien sûr continuer à lire. Et ceux qui poursuivront leur lecture remarqueront que la quatrième bête et la description qui suit sont directement liées au royaume millénaire, car c'est ce qui est écrit ici au verset 27. Alors, la royauté, la domination et la puissance sur les royaumes sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume sera éternel et toutes les autres puissances le serviront et lui seront soumises. Vous pouvez le lire dans l'histoire. L'Empire romain a commencé, quand était-ce, probablement 31 avant Jésus-Christ. Et c'est le dernier qui durera jusqu'à la fin. Il y a moins d'un an, le chancelier Kohl et François Mitterrand se trouvaient dans la salle du couronnement à Aix-la-Chapelle et j'ai entendu le discours. Tous deux ont dit, il s'agit de rétablir l'Europe des patries. Une belle formulation. On peut d'ailleurs entendre la même formulation partout. Même pour une Europe qui s'étend de l'Atlantique à l'Oural. De quoi s'agit-il maintenant? Qui détient le pouvoir aujourd'hui? Est-ce la France? Est-ce la Russie? Est-ce l'Allemagne? Où se trouve le pouvoir? Où se fait la politique qui détermine le monde? Qui le sait? Pardon? Rome, oui, le terme est un peu trop vaste. À Rome, il y a 7 collines et un quartier un peu à l'écart, c'est le Vatican. Tout juste la semaine dernière, le pape et Arafat sur cette photo-ci. Et la discussion portait sur la manière dont les choses doivent se dérouler au Moyen-Orient entre Israël et les Palestiniens. Déjà annoncé, l'homme en Lituanie a dit qu'il ferait appel au pape en tant que médiateur, il doit rendre justice. Les accords de Camp David ont été négociés au Vatican. Je tiens cela d'un homme qui en est sûr à 100%. Aujourd'hui, la politique n'est pas faite partout. Elle est seulement mise en œuvre partout. Elle est faite en un lieu tout à fait central. Gorbatchev, qu'est-ce que c'était déjà? N'a-t-il pas dit il y a quelques jours, la semaine dernière dans son discours? J'ai l'impression que le monde entier a été touché par une baguette magique. Des événements se sont produits que personne n'avait prévu et ces événements submergent les politiciens. Ils doivent veiller à suivre le rythme. Tout se passe désormais à une telle vitesse. On ne doit pas montrer toutes ces photos ici. Ce qui m'impressionne particulièrement, c'est cette photo-ci. Vous pouvez certainement vous la procurer chez nous à n'importe quel guichet bancaire. EQ 92, EQ 92. Quiconque est un tant soit peu informé sur la politique sait que l'EQ signifie European Currency Unit. Et qu'il s'agit de l'unité de compte utilisée pour tous les membres de la CE, donc Communauté Européenne, pour leurs transactions. Ce n'est pas sur la base du dollar, ni sur celle du mark allemand. Les comptes sont réglés sur la base de l'écu. Et ici, en République fédérale d'Allemagne, on frappe une pièce d'or et une pièce d'argent. Mais cela ne serait pas si grave. Mais savez-vous ce que je vois ici? La prostituée sur la bête, sur l'une des pièces, et de l'autre côté, l'aigle. La prostituée sur la bête, nous allons mettre cela dans la vitrine pour que vous puissiez tous le voir demain. Et au verso, l'aigle, tant sur l'or que sur l'argent. Avez-vous compris cela? L'aigle au verso. Je vais lire tout de suite un passage de la Bible. Apocalypse 17, verset 3. La prostituée chevauche la bête. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ne connaissent pas la parole de Dieu sont pourtant plongés dans cette évolution de la fin des temps. Et peu importe si aujourd'hui c'est un col qui est au pouvoir, c'est l'évolution qui décide et non les politiciens. Et nous devons simplement voir comment les choses se passent. Et oui, les choses avancent plus vite que nous ne le pensons. En 1948, lors du remplacement du Reichsmark par le D-Mark, je suis effectivement allé chercher mes 40 D-Mark. Le chef de famille en a reçu 60 et tous les autres en ont reçu 40. Et à l'époque, la prostituée sur la bête était déjà représentée sur le billet de 5 marques, déjà en 1948. Et cela, dans ce pays où nous nous trouvons actuellement. Puis, il y a eu une période de calme, et maintenant, soudain, à la fin de cette génération, les mêmes raisonnements qu'à l'époque refont surface, ainsi que les mêmes symboles. Mes chers amis, je voudrais que vous sachiez aussi ceci. Le frère Branham a vraiment vu la fin des temps dans des visions. Et des avertissements ont été donnés, que ce soit dans les Saintes Écritures ou par le fait qu'on nous a fait remarquer quelle serait l'évolution actuelle. Et j'espère seulement que nous le voyons tous et que nous le comprenons aussi. Avant l'ouverture des sept sceaux, vous le savez tous, ce nuage est apparu dans le ciel. Et les sept anges, frère Branham les a comptés de gauche à droite. Ils se tenaient juste en face de lui. Et il a dit, celui qui se trouvait à mon extrême gauche m'a marqué plus que les six autres. Et c'est le septième qui lui a parlé. Il les a décrits avec précision. Et puis, il a effectivement été pris dans ce nuage et on lui a dit, retourne à Jeffersonville car le temps est venu d'ouvrir les sept sceaux. Si quelqu'un lit le livre Les Sept Sceaux, peut-être n'a-t-il pas vu grand-chose la première fois, ni entendu grand-chose. Mais lorsque l'Esprit de Dieu nous ouvre l'intelligence, nous trouverons alors quelque part le cœur de la question et nous en remercierons Dieu du fond du cœur. Pour tout cela, notre intelligence spirituelle doit nous être ouverte. J'ai également apporté le magazine Life ce soir. Ici, à la page, vers la page 100, ils ont également montré l'image avec le nuage. Et le monde entier en a eu connaissance, bien sûr, dans un magazine comme celui-ci. Avec cette qualité de papier, on ne peut pas faire grand chose. Mais il est dit ici, « Is a right ground ring of mystery. » Un nuage haut, un anneau de mystère. Il ne pouvait pas l'expliquer. Il y avait là un homme de Dieu que le Seigneur avait informé à l'avance de ce qui allait se passer. Et cela s'est effectivement produit. Passons à l'Apocalypse chapitre 13 et prions ensemble Dieu de nous accorder par sa grâce la compréhension spirituelle. Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 1. Je vis alors sortir de la mer. Vous souvenez-vous de ce que Daniel a vu? Il a vu que la mer était agitée, n'est-ce pas? Et que quatre bêtes en sortaient. Jean a vu la même chose. Je vis alors monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 couronnes royales, et sur cette tête, des noms blasphématoires. Verset 2. La bête que j'ai vue ressemblait à un léopard, mais ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme celle d'un lion. Et maintenant, écoutez ce qui est écrit. Verset 2. Le dragon lui donna alors son pouvoir et son trône et une grande puissance. Cela ne me plaît pas. Mais c'est ainsi. Imaginez maintenant que le vieux dragon, Satan, donne son trône et sa puissance à cette dernière puissance mondiale, à cette dernière bête, à cet empire romain. Oui, savez-vous ce qui se passe alors? Savez-vous ce que cela signifie? Savez-vous ce qui se passe alors? Je relis le verset dernier, le deuxième partie, du verset 2. Le dragon lui donna alors son pouvoir, son trône et une grande puissance. Verset 3. Ainsi qu'une de ces bêtes, de ces têtes qui semblait avoir été tuée, mais dont la blessure mortelle avait été guérie. Alors toute la terre regardait la bête avec une admiration émerveillée. Verset 4. Et l'on adora le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et l'on adora la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut lutter contre elle? On continue ensuite avec l'homme qui préside à cette affaire. De quoi s'agit-il maintenant en lisant ce texte? Il s'agit de la fin des temps. Ce ne sont plus 4 bêtes. Une bête sort de la mer. Une bête. Une tête de cette bête avait été blessée à mort et fut guérie. Et le monde entier s'en émerveilla. Mes chers amis, ceux qui connaissent un peu l'histoire, et je ne la connais pas bien moi-même, juste un peu, mais la Rome païenne est devenue la Rome papale. Et ensuite, ça a été des hauts et des bas, mais ce qui se passe actuellement, à savoir une concentration du pouvoir religieux, politique et économique telle qu'elle se concentre aujourd'hui, n'a jamais existé sur Terre. Jamais. Bientôt, nous pourrons oublier les États-Unis et le dollar. L'Europe unie alors sera l'autorité et la puissance centrale. Et l'avez-vous remarqué maintenant, en République démocratique allemande, le ministre des Affaires étrangères est un pasteur, l'autre est peut-être un prêtre, le troisième un jésuite. Qu'en savons-nous? En tout cas, partout, ce sont les hommes qu'il faut qui prennent les rênes, ceux qui doivent accomplir ce qui doit maintenant se produire conformément à la parole prophétique. Et voici le pays qui était divisé. Vous savez bien que toute chose a besoin de dirigeants, de têtes. Et nous n'avons jamais manqué de bonnes têtes. Mais l'une d'entre elles a été mortellement blessée. La séparation, la division entre l'Est et l'Ouest était bien réelle. À quelle distance se trouvait Wittenberg de la ligne de débarcation, là où les 95 thèses, les 95 thèses ont été clouées sur la porte de la communauté religieuse du château et où la réforme, la réformation a connu son avènement. Je ne souhaite pas m'étendre davantage sur ces choses, mais Dieu s'est donné beaucoup de mal pour opérer un nouveau départ. Et cela s'est en effet produit de manière majestueuse. La réformation s'est frayée un chemin jusqu'à Genève et jusqu'à Graz. À Genève, l'aigle allemand est devenu l'emblème de la ville et à Graz, la réformation a été repoussée. 30 000 personnes ont fui la région de Salzbourg vers la Silésie et la Prusse occidentale. La région est redevenue noire. Mais aujourd'hui, cela se fait par des moyens pacifiques. Le pape s'est rendu à Genève pour le communisme et a déclaré « Je suis le chef des communautés religieuses chrétiennes ». Et personne ne l'a contredit. Dans tout le monde chrétien, il y a un tel aveuglement, une telle apostasie. Les gens ne voient plus où ils vont. Et quand j'ai appris que Billy Graham était allé voir le pape pour la troisième fois maintenant, j'en ai eu mal au cœur. Ce sont pourtant des hommes qui ont eu la possibilité de faire leur choix pour Dieu. Ils ont préféré la popularité. Mais le Seigneur a un peuple qui doit être appelé à sortir. Et si nous devons appeler les autres à sortir, nous devons nous-mêmes être sortis auparavant. Nous voyons aussi aujourd'hui le conseil œcuménique des communautés religieuses. Il y a en effet deux choses naturellement, et aussi dans le domaine spirituel. La bête et l'image de la bête, il y a deux choses, pas seulement une, il y en a deux. Mais la seconde veille à ce que tous les habitants de la terre rendent hommage à la première bête. Ils doivent veiller à ce que la chose originelle retrouve ses droits. Je lis cela dans Apocalypse 13, du verset 15. Oui, avant cela, au verset 14, il est peut-être encore écrit « Et il séduit les habitants de la terre, verset 14, par les prodiges qu'il accomplit aux yeux de la bête grâce au pouvoir qui lui a été donné en persuadant les habitants de la terre de faire une image de la bête qui a reçu la blessure de l'épée et qui a revécu. » Verset 15. « Il lui fut également donné de donner vie à l'image de la bête, de sorte que l'image de la bête parlait même. Et il parvint aussi à ce que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. » Vous pouvez bien sûr continuer à lire. Je m'arrêterai là. Nous devons garder deux choses à l'esprit. D'une part, le domaine religieux, puis le domaine politique. Et les deux fonctionnent ensemble et prendront le pouvoir total. Tout comme, d'une part, il y a la communauté religieuse romaine, mais d'autre part, le conseil œcuménique des communautés religieuses en tant que contrepartie de la communauté religieuse romaine, au sein duquel sont désormais réunies exactement 310 communautés religieuses qui reconnaissent toutefois l'autorité du pape, mais pas tout ce qu'il fait. En tout cas, il y a un manque de contradiction. Nous voyons que ces choses aussi ont pris une tournure dont il n'y a plus de retour en arrière possible. On pose sans cesse la question: est-il donc si nécessaire d'entendre, d'écouter la parole pour cette époque? Je le répète Beaucoup ne comprendront qu'une fois auprès du Seigneur quelle valeur ont eu pour notre époque les révélations divines de la parole par l'Esprit. Soyez honnêtes. Auriez-vous pu discerner ces choses? Aurais-je su aujourd'hui ce qu'est ceci ou cela si Dieu n'avait pas envoyé son serviteur et prophète et placé la parole prophétique sur le chandelier? Et il en a également parlé quand l'Orient et l'Occident, quand l'Est et l'Ouest se rencontreront juste après que Khrushchev eut retiré sa chaussure et frappé le pupitre avec celle-ci lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Frère Branham a ensuite prêché et déclaré que l'Orient et l'Occident, l'Est et l'Ouest se rencontreraient. Nous le voyons aujourd'hui maintenant. Et de nouveau, la question, qui en a décidé ainsi? Gorbatchev savait-il ce qu'il faisait lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1985? Non. Mais il a mis les choses en route. Les autres récoltent maintenant les fruits qu'il a semés. Mais cette évolution était nécessaire. Et avez-vous vu qui saisit cette opportunité? Frère Kier, tu viens justement de te rendre en Roumanie. Combien d'évêques le pape y a-t-il déjà nommé? Était-il au nombre de 12? Partout où il passe, que ce soit en politique, en économie ou en religion, il n'y a qu'une seule voix que tous écoutent. Et la parole de l'Apocalypse, chapitre 17, nous dit que c'est la ville qui règne sur les rois de la terre. Je lis Apocalypse, chapitre 17, du verset 1. L'un des sept anges qui avait les sept coupes vint me parler et dit, viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux. Nous avons déjà lu à propos des eaux. La bête sort des eaux. Que signifient les eaux? D'un point de vue biblique, ici au sens prophétique, Apocalypse 17, verset 15. Puis il poursuivit, les eaux que tu as vues où la prostituée est assise sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ce n'est pas un seul pays, mais tous les pays de ce continent sont inclus. Et tous les peuples doivent mettre leur puissance à la disposition de cette puissance, de cette bête sur laquelle la prostituée est assise. Laissez-moi continuer. La lecture, Apocalypse 17, verset 2. Il est écrit ici, avec laquelle les rois de la terre se sont livrés à la débauche et dont le vin de débauche a enivré les habitants de la terre. Qui chevauche qui? Qui détient le pouvoir suprême? Qui est cette femme? Je ne vous l'ai sans doute pas dit. Sur cette pièce, sur la pièce d'or et d'argent, figure le couronnement aux 12 étoiles, tel qu'on le trouve au-dessus de Marie à chaque occasion propice. Les 12 étoiles entourent cette effigie représentant la prostituée sur la bête. Donc les 12 étoiles entourent cette pièce, représentant la prostituée sur la bête. La prostituée chevauche la bête à cette différence près qu'ils ont volé l'image de la véritable église tirée du chapitre 12 de l'Apocalypse, où il est écrit, Apocalypse 12, verset 1, un grand signe apparut. Alors, dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune était sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Je suis reconnaissant à Dieu d'avoir entendu Frère Branham prêcher sur ce chapitre dans questions et réponses. Il a dit, c'est la véritable Église. Le soleil symbolise la période du Nouveau Testament. Le soleil de justice s'est levé sur nous, apportant le salut sous ses ailes. La lune symbolise l'Ancien Testament. Ce n'est que par le Nouveau que l'Ancien a reçu l'illumination et son accomplissement. Tout comme la lune reçoit la lumière du soleil et la reflète, l'Église du Nouveau Testament s'est élevée sur le fondement qui avait déjà été posé. Et puis elle a été couronnée d'une couronne de 12 étoiles. Vous pouvez le vérifier. Lorsque Jésus est apparu à Jean sur l'île de Patmos, il était question de 7 étoiles. Et les 7 étoiles étaient 7 anges, 7 messagers. Les 12 étoiles dont est couronnée l'Église du Nouveau Testament représentent l'enseignement des 12 apôtres. Cette image a été volée par la prostituée d'Apocalypse 17 qui s'est parée de cette couronne de 12 étoiles. Nous ne pouvons pas changer cela, mais nous savons très bien à quoi correspondent ces choses et comment les classer. Je continue ma lecture d'Apocalypse 17, verset 2. Avec laquelle les rois de la terre se sont livrés à la débauche et dont le vin de la débauche a enivré les habitants de la terre. Verset 3. Il m'emporta donc en esprit dans un désert et j'y vis une femme assise sur une bête rouge écarlate, couverte de noms blasphématoires, ayant 7 têtes et 10 cornes. Nous pouvons continuer à lire. La description est si précise. Les 7 têtes, 7 rois, 7 royaumes, mais un troisième s'ajoute, un troisième élément, afin que nous ne puissions pas nous égarer et que nous sachions à 100% de quoi il s'agit ici. Je lis Apocalypse 17, verset 9. Il faut ici de l'intelligence, accompagnée de sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Quelqu'un m'a dit qu'il existe plusieurs villes construites sur cette colline. C'est peut-être le cas, je ne sais pas. Mais là n'est pas la question. Ce qui importe, c'est que la description globale soit exacte. Je lis le dernier verset d'Apocalypse 17, verset 18. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Avez-vous lu avec moi? Est-ce Moscou? Personne n'y croit. Est-ce Washington? Oh, je vous en prie. Est-ce Bonn? Ah, oubliez ça. Est-ce Paris? Non, c'est Rome. Et là-bas, le Vatican. Je n'y peux rien. Dieu ne m'a pas appelé à parler en parabole. Le moment est venu d'exposer ouvertement dans quelle évolution nous nous trouvons actuellement. Le pouvoir se concentre, la prostituée chevauche cette bête, et cela ne nous plaît pas, mais le dragon, Satan, lui donne son pouvoir. Je me suis dit cela, et je voulais vous le transmettre comme sujet de prière. Si Satan met son trône et son pouvoir à la disposition de son représentant ici-bas, ne serait-il pas bon que notre Dieu veuille nous faire partager un peu de son pouvoir, de sa souveraineté? Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Plus Satan donne de pouvoir à son représentant, plus Dieu nous donne le revêtement pour que nous puissions y faire face. Et nous avons là la promesse qu'il rétablira tout et remettra chaque chose à sa place comme c'était au commencement. Nous savons bien que Satan est capable de bien des choses, mais il n'y a qu'un seul Tout-Puissant, et c'est Dieu. Il n'y a pas de Tout-Puissant, il n'y en a qu'un, et c'est le Dieu Tout-Puissant. Mais je voudrais encore une fois nous le rappeler. Si Satan met maintenant dans la phase finale son trône, son pouvoir et sa puissance à la disposition de son représentant afin qu'il puisse accomplir ce qui doit être fait de manière malveillante, que doit alors faire Dieu maintenant? Dieu doit-il rester les bras croisés et regarder comment tout cela se déroule? Ou pouvons-nous demander à Dieu maintenant qu'il ait pitié de nous, qu'il mette fin à notre impuissance et qu'il revête l'Église de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit, afin que nous prononcions la parole de notre Seigneur et que ce que nous disons au nom du Seigneur s'accomplisse réellement, afin que Dieu puisse confirmer sa parole sur le champ. Nous croyons en cela, et frère Branham l'avait également prédit. Il avait vu, au moment où la pression s'exercera sur l'église de l'épouse, c'est-à-dire pendant la brève période précédant l'enlèvement, avant l'enlèvement, c'est dans ce moment-là où Dieu manifestera sa puissance dans l'épouse. Frère Branham a même vu des gens guéris. Il a vu des miracles de création. Il a vu des gens arriver avec un seul bras et repartir avec deux bras. Il a dit que ce qui lui avait été montré en vision était si impressionnant que les gens en sont ressortis non seulement guéris, mais aussi terrifiés par ce qui leur était arrivé. Nous croyons que Dieu ne restera pas les bras croisés. Notre Seigneur est pourtant le vainqueur de Golgotha. Et si l'Antichrist a pour mission de séduire toutes les nations, tous ceux dont le nom ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau immolé, qu'il fasse son travail. Apocalypse 13, verset 8. Mais Dieu a lui aussi une tâche, une mission, à savoir l'achèvement de l'Église épouse. et nous avons en nous l'espérance vivante que ce qui se produira à ce moment-là est ce que nous avons déjà vu dans une certaine mesure dans le ministère de Frère Branham. Vous savez, il était le seul à se référer à Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Les œuvres que j'ai accomplies, vous les accomplirez aussi. Et même de plus grandes. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais et il en accomplira de plus grandes encore. Si Dieu nous a envoyé un messager pour nous ramener à la foi originelle des apôtres, à la proclamation et à l'enseignement biblique, et qu'il exerçait lui-même un ministère restauré avec une autorité divine, apostolique et prophétique, alors je me demande si nous, en tant qu'Église, ne pouvons pas nous attendre à ce que nous, qui croyons en toute la parole, recevions et expérimentions également la restauration complète de la puissance de Dieu et par conséquent la confirmation divine comme le Seigneur l'a promis. D'ailleurs, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et parce qu'il est le même, il est capable de faire la même chose. Remarquez-vous maintenant que le temps a avancé et que nous ne vivons pas seulement dans les derniers temps, mais que nous sommes entrés dans la phase finale. Tout va se dérouler très rapidement. Ici, ils écrivent Écu 92, Écu 92. Cela pourrait bien arriver plus tôt, mais certainement pas plus tard. Toutes les prévisions qui sont faites actuellement vont s'avérer anticipées. Les événements devance les prévisions. Nous pouvons affirmer en toute bonne conscience, le retour de Jésus-Christ est à portée de main. Pour conclure, je voudrais revenir très brièvement sur les deux citations de Frère Branham. Si cet homme disait déjà à l'époque, les ismes vont surgir, le communisme, le socialisme, le fascisme et ainsi de suite, déboucheront sur le communisme, puis tout à la fin sur le catholicisme. C'est ainsi que cela se passe aujourd'hui, et pas autrement. Et l'Empire romain consiste en effet en une puissance mondiale, une communauté religieuse mondiale, un empire mondial et nous tous, la grande nation française, la petite république fédérale et tous les autres peuples. Nous mettrons notre pouvoir, c'est-à-dire nos gouvernements, à la disposition de cette bête. Elle décidera de ce qui doit se passer. Et tout à la fin, lorsque l'union religieuse, politique et économique sera parfaite, alors nous serons pris à la gorge. Mais ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais celui qui peut condamner le corps et l'âme en enfer. Nous craignons Dieu et personne d'autre. Nous lui rendons gloire et ne faisons pas marche arrière. Mais nous nous appuyons sur la parole de vérité qui nous est devenue précieuse et chère. Et puis il y a aussi cette partie. Lorsque Berlin Est sera restitué ou dans notre langue, dans notre langage, lorsque la division aura pris fin, alors ce sera la fin du communisme et tout reviendra à Rome. Tout reviendra à Rome. J'ai lu récemment, était-ce dans le magazine Spiegel ou Stern, qu'il y avait plus de 700 millions de communisme et qu'en l'espace de quelques semaines, plus de 80 millions ont quitté le parti. Et ça dégringole et très vite. Pourquoi tout cela? Le nazisme a pris fin dans l'horreur. Le fascisme a pris fin. Le communisme et le socialisme, tous les ismes touchent à leur fin. Et puis viendra ce beau règne où tout le monde aura de sa place. Toutes les religions, Arafat et le pape, un beau tandem. Mais il n'est pas le seul. C'est là que tout va. Et croyez-moi, cet homme me fait de la peine car il doit jouer ce rôle. Je ne lui souhaite vraiment pas ça. Mais d'un autre côté, les choses ont été ainsi ordonnées. Et voyez, les autres papes sont bien restés là où ils étaient, à moins d'avoir été chassés, puis de s'être brièvement réfugiés en France, avant de revenir, mais maintenant, cet homme ne reste plus là où il devrait être. Il parcourt le monde entier. Il est devenu un pape voyageur. Dans quel but? Pour placer le monde entier sous son influence et séduire les habitants de toute la terre. Comme nous l'avons lu dans Apocalypse 17, les peuples ont bu de ce vin et sont devenus fous. Ils ne peuvent plus penser clairement et encore moins voir clairement. À ce sujet, le prophète Jérémie a reçu au chapitre 51 une révélation si pertinente qu'elle pourrait en réalité déjà figurer dans le Nouveau Testament. Mais vous le savez bien, l'Ancien et le Nouveau Testament ont tous deux été inspirés par le même Saint-Esprit. Jérémie 51, verset 7. Babylone était une coupe d'or dans la main du Seigneur qui a enivré toute la terre. Les peuples ont bu de son vin. C'est pourquoi les peuples ont perdu la raison. L'avez-vous entendu? Ce n'est pas moi qui l'ai dit et je ne l'ai pas lu dans le journal, mais dans la parole de Dieu. Dans Jérémie 51, verset 7, les peuples, comme des ivrognes, ont perdu la mesure. Perdu le cap, perdu la raison. Ils ne savent plus ce qui se passe. Et cela continue au verset 8. Soudain, Babylone est tombée et a été anéantie. Ne lisons-nous pas dans Apocalypse 17 que les 10 cornes brûleront cette ville avec le feu, par le feu. Le jugement viendra. Apocalypse 17, verset 16. Mais un peu plus tard, une fois que toutes les choses que Dieu a dites dans sa parole et qui doivent arriver auront été accomplies. Au verset 9, et Jérémie 51, nous avons voulu guérir Babylone, mais elle était incurable. Livrez-la à son sort. Partons, sortons, chacun dans son pays, car le châtiment de la ville s'élève jusqu'au ciel et atteint les nuages. Telle est la parole sainte de Dieu. Mais chers amis, nous ne pouvons rien y changer. N'essayez pas de guérir ou de sauver Babylone. Hâtez-vous et sauvez votre âme. Fuyez Babylone. Vous, mon peuple, sortez, séparez-vous. Ne touchez rien d'impur. Alors, vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai votre Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 18. Tous les protestants qui autrefois protestaient et qui ont soudainement ressenti un amour si étrange, œcuménisme, nous sommes tous égaux, il faut aimer tout le monde. Ils voulaient guérir Babylone. Mr. Pentecoste, Duplessis, que voulait-il? Il voulait prier pour que le pape reçoive le baptême du Saint-Esprit. Deux frères ont prié pour que le cardinal Béat reçoive le baptême du Saint-Esprit. Nous souhaitions de tout notre cœur que le monde entier devienne bienheureux et soit sauvé et devienne croyant. Mais ce sont des individus, pas la masse. Ce n'est pas une institution. Ce sont des individus que Dieu appelle parmi toutes les religions, parmi tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Il y a des enseignants de la Bible qui pensent que l'islam a quelque chose à voir ou à dire, ou d'autres religions. Non. Mes chers amis, gardons à l'esprit l'évolution telle que nous l'avons un peu examinée aujourd'hui. L'Empire romain dure jusqu'à la fin. Toutes nos nations en font partie. Tous les politiciens, tous les chefs religieux, tous doivent maintenant faire cause commune. Il n'y a pas d'autre solution. À la fin, ce n'étaient pas plusieurs bêtes que chevauchait la prostituée, mais une seule bête. Et si sept têtes et 10 cornes en jaillissent ensuite, cela aussi est très clair. Les têtes sont toujours utiles pour élaborer un bon plan, pour gouverner, pour bien gouverner. Les cornes pourraient évoquer des coups. Et vous savez bien ce qui va se passer lorsque ces 10 cornes auront achevé le Vatican. Mais nous ne voulons pas nous attarder là-dessus pour l'instant. Ce qui m'importait vraiment ce soir, c'était que nous constations à quel point les choses ont déjà avancé. Et nous nous trouvons en effet à la fin de la fin des temps. Et que Dieu nous accorde la grâce de proclamer au peuple de la terre le pur message apostolique et biblique du christianisme primitif selon la parole du Seigneur. Matthieu 24, verset 14. Et ce message du salut concernant le royaume sera prêché dans le monde entier en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Nous ne voulons pas nous contenter de regarder tout se plier sous Rome. Nous voulons lancer le dernier appel comme au son de la trompette. Sortez d'elle, séparez-vous, fuyez Babylone, afin de ne pas avoir part à ses péchés. Avez-vous compris ce que nous avons examiné ici ce soir à partir des Saintes Écritures? Voyez-vous à la lumière des Écritures comment les choses se déroulent actuellement? Gloire à Dieu. On me dit parfois, frère Franck, tu pars du principe que tout le monde sait déjà tout depuis toujours. Mais nous en avons suffisamment parlé. Et je crois que le Saint-Esprit révélera le reste à quiconque lit l'Apocalypse et s'y plonge. Tout ne vient pas d'un seul coup. mais Dieu nous le donne selon nos besoins et notre capacité à le recevoir. Que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il suscite en nous un nouvel engagement envers lui, afin que nous puissions nous joindre à ce cantique tout pour Jésus, tout pour lui. C'est ainsi que nous voulons traverser la vie. Plus de regard en arrière, plus de compromis. Nous avons pris position pour Dieu sur la base de sa parole et nous croyons qu'il combattra pour nous. Et s'il est pour nous, qui peut être contre nous? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Dans le monde. Lorsque Satan met son trône et sa puissance à la disposition de ses représentants, nous devons nous souvenir de cette parole. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il l'a prouvé, il a vaincu la mort, le diable et l'enfer. Et il est ressuscité des morts le troisième jour. Il est le vainqueur légitime de Golgotha. Que son nom merveilleux et glorieux soit loué et glorifié. Amen.